Bonjour à tous. Donc on m'a dit de pas bouger. Pour être bien dans le cadre, ça va être dur, j'ai la bougeotte d'habitude, j'arrive pas à parler assis, mais je vais essayer quand même. Je vais essayer aussi d'aller vite. Donc je demande au coach temporel de faire un signe. Alors que c'est pas les. Vous avez tous vu des TED Talks. Vous avez peut-être même participé à des événements TED et vous savez qu'il y a un changement de lumière au moment où l'orateur doit... Voilà. Donc si vous pouvez tous faire une hola, soit quand vous en avez marre, soit quand le temps est passé. Et là, c'était pour vous laisser vous imprégner des trois mots-clés que je mets en triangle pour que l'enchaînement paraisse plus logique. On va commencer un peu avec le rapport qu'il y a entre l'informatique et l'éducation. Donc on va aller de gauche à droite, informatique et l'éducation, puis l'éducation et le libre, et on va essayer de boucler la boucle. Est-ce que vous connaissez Vannevar Bush, de nom? Oui, vous l'avez lu? Oui. En 45, Vannevar Bush sort un article dans Atlantic Monthly qui s'appelle « The Memex », et quand vous allez chercher sur Wikipédia « Memex », vous allez trouver l'ancêtre de l'hypertexte et l'idée d'une mémoire à disposition augmentée. J'appelle ça la préhistoire parce que c'est beaucoup de gens relient ça à la préhistoire d'Internet, mais pour moi c'est intéressant de le relier aussi à la préhistoire de la problématique de l'éducation, parce que dès que Bush met en ligne cette idée-là, et bien se pose aussi toute la question de comment va fonctionner notre cerveau avec un tel outil à notre disposition, comment on va interagir avec lui, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, qui pourra y contribuer et qu'est-ce qu'on va apprendre. D'accord ? Donc c'est hyper intéressant d'aller fouiller un peu là-dedans. Lui, je ne vous le présente pas. Alan Turing, est-ce que l'article de 1950 est plus connu des philosophes ? Donc j'ai oublié de me présenter, mais je suis philosophe de formation et puis libriste depuis une quinzaine d'années. Et je contribue notamment à GNU Emacs, un petit éditeur de texte assez pratique. Et souvent cet article est plus lu, Computing Machinery and Intelligence, par les philosophes, parce que c'est ce qui a lancé le débat sur l'intelligence artificielle. Dans le cadre qui nous intéresse ici, il m'intéresse à deux titres, parce qu'on y trouve deux définitions de l'intelligence, d'accord ? Donc ça n'a rien à voir avec le débat sur les états d'âme chez les robots et ce qu'on a fait du débat sur l'intelligence artificielle après coup, et notamment sur la conscience. Turing évacue d'emblée les questions sur la conscience, mais il se pose très simplement la question: à partir de quand est-ce qu'on pourra dire qu'une machine est intelligente ? Donc c'est bien à partir de quand est-ce qu'on pourra dire ? Aujourd'hui, on dit assez fréquemment d'une machine qu'elle est intelligente sans se poser de questions sur ses états d'âme. Il a deux définitions qui sont intéressantes pour le propos sur l'éducation. Donc, la première, c'est ce que j'appelle une définition Wittgensteinienne à partir de l'usage de l'intelligence et ce qu'un être humain peut qualifier d'intelligent. Et la deuxième, c'est sur la notion d'esprit surcritique et sous-critique. Tout simplement, un esprit sous-critique, vous lui rentrez 10 informations et il en sort 2. Un esprit sur-critique, vous lui rentrez 2 informations et il en sort 10. D'accord ? En d'autres termes, ça peut correspondre à la curiosité ou à la fertilité de l'esprit, mais c'est très proche de la notion d'intelligence et il l'utilise aussi pour les machines. Ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'on a déjà l'apparition du rapport entre l'apprentissage et l'ordinateur. Donc vous savez tout le travail qu'a fait Turing sur les ordinateurs. Et on n'a pas ici l'idée d'un être humain qui serait en train d'apprendre face à des ressources informatiques, mais l'inverse, c'est-à-dire d'un ordinateur qui apprendrait au fur et à mesure. Et ça a ouvert tout le champ scientifique de l'apprentissage pour les machines. Mais on n'est pas loin d'inverser la position et c'est intéressant. Un autre personnage qui n'est pas très connu, mais qui est quand même à l'origine de tous les travaux sur l'interaction homme-machine, c'est Licklider, avec notamment cette idée d'une symbiose entre l'homme et l'ordinateur, à l'époque où tout le monde essayait juste d'éviter les ordinateurs. C'était des grosses machines, il y avait des techniciens, mais le but du jeu n'était pas d'interagir avec eux. Tout ça, c'est né très lentement, et Licklider est un des pionniers de ça. Donc je vous donne ces références, c'est pas juste pour faire de l'archéologie un peu facile, mais c'est aussi vraiment que dès qu'on relie ces personnes-là, on réfléchit aux questions d'apprentissage avec des ressources informatiques. Et aussi donc Engelbart, dont on a entendu parler récemment puisqu'il est décédé, donc tout le monde a dit que c'était l'inventeur de la souris. C'est beaucoup plus que ça. Engelbart, c'est vraiment celui qui a essayé de concevoir une interaction homme-machine réelle, et vous irez chercher sur YouTube, il y a une démo qui s'appelle la mère de toutes les démos, et c'est Engelbart qui parle, donc il y a de ça 40 ans, et qui fait une démo d'un système. Donc si vous utilisez un bon éditeur de texte comme Emacs, vous avez un outliner que vous avez aussi sous VI, mais tout ce qu'il présente ressemble exactement à OrgMod, Emacs ou un outliner. Et donc, c'est assez fascinant de voir ça. Et il le présente, encore une fois, vous avez le titre sous les yeux, dans la perspective de qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre de différent avec ces interfaces. Celui qui a le plus marqué ces questions d'éducation et d'informatique, c'est Seymour Papert, avec notamment Mindstorm, donc il y a maintenant un livre qui a 33 ans, qui s'appelle en français « Jaillissement de l'esprit », donc c'est plus... C'est plus poétique, mais là, Mindstorm, donc c'est ce livre qui est vraiment encore aujourd'hui d'actualité, hyper lisible, que je vous recommande, et qui pose les fondations du constructivisme. Donc je ne rentre pas dans le détail des théories pédagogiques, mais en gros, Papert raconte au début de son livre que quand il était petit, il était fasciné par les engrenages, et qu'il modélisait tout spontanément sous forme d'engrenages. Donc il avait des opérations arithmétiques élémentaires, il les convertissait mentalement comme des opérations entre des engrenages, la multiplication, etc. Et il s'est dit, en généralisant ça et en rencontrant les travaux de Piaget, il se dit, ok, si l'éducation s'est passée d'une phase de déstabilisation de certains savoirs plus ou moins innés vers une phase de stabilisation de concepts, de paradigmes nouveaux pour un enfant, pour un adolescent, qu'est-ce qui nous permettra d'avoir des engrenages à l'infini ? Eh bien, l'ordinateur. Donc, Papert, c'est la rencontre entre l'ordinateur. Il est mathématicien au départ, mais il travaille au MIT, il découvre les premiers ordinateurs, et les théories en psychologie de Piaget. Il se dit, voilà, on a entre les mains un ordinateur qui est une machine universelle à simuler et à donner des engrenages à tous les enfants pour que l'apprentissage se fasse selon les modèles qui leur conviennent à eux, qui leur conviennent à leur âge, et avec lesquels ils pourront jouer à l'infini. Pour l'anecdote, vous êtes tous trop jeunes, mais c'est la tortue du plan informatique pour tous, d'accord ? Il y a peut-être encore des tortues mortes, des fois dans des écoles primaires qui traînent sur des vieux Thomson. La tortue, c'est Papert et le travail qu'il a fait qui nous a mis ça entre les mains. Alan Kay, qui lui, que vous connaissez comme étant le fondateur du langage orienté objet, qu'il invente dans le cadre de la création de Smalltalk, donc un environnement qui était vraiment conçu pour les enfants. C'était fait pour rendre la programmation accessible aux enfants, mais pas seulement la programmation. C'était aussi pour leur rendre accessible des connaissances extra-informatiques, entre guillemets, via cette interface de simulation qu'est l'ordinateur. Et avec cette phrase qui définit exactement tout le programme sur qu'est-ce que peut être les rapports entre l'éducation et l'informatique, c'est que l'interface d'un ordinateur doit être une interface d'apprentissage. En 2005, le projet de l'ordinateur à 100 dollars, qui ne vaut pas 100 dollars, mais qui valait à peu près le double, et qui a fait renaître un peu tout ce débat autour du constructionnisme de Papert. Papert, en 2005, est le Chief Education Officer de OLPC. Et parmi mes activités parallèles, j'ai cofondé avec un ancien de l'ENS Cachan, Xavier Carcel, et quelques autres. On a cofondé OLPC France, qui est donc une association communautaire, où on s'occupe, donc c'est parti d'un intérêt pour la machine, d'accord, qui avait des vertus propres, un écran bimodal où on pouvait voir en couleur et en mode Kindle, donc sans reflet, des propriétés de solidité, des propriétés écologiques, tout ça qui était intéressant. Donc c'est né d'un intérêt pour la machine et ça s'est étendu. Maintenant, c'est vraiment, ça regroupe des enseignants, des gens qui s'intéressent à la pédagogie, et on a aussi un déploiement de 200 machines à Madagascar. Donc c'est une association ouverte. J'en profite pour vous inviter à nous rejoindre. J'espère que vous aurez convaincu. Mais donc en 2005, tous ces débats sont réactivés. Et ici, vous avez la figure de la personne qui était en charge du logiciel à OLPC et qui a monté une structure communautaire hein, de libristes parallèle qui s'appelle Sugar Labs. Et aujourd'hui, cette structure, c'est celle qui développe le système d'exploitation qui est installé sur les ordinateurs d'OLPC. Donc, c'est un dérivé de Fedora avec une couche graphique différente et puis quelques concepts clés différents au niveau de l'interaction. Les deux concepts clés différents sont la notion de journal. On n'a pas de fichier. D'accord, on n'a pas un fichier associé à un programme, on a un journal avec des activités, et quand on parcourt les activités de la semaine, du mois ou de la journée, on clique sur une activité et elle s'ouvre dans l'état dans lequel on l'a laissé. Donc c'est un journal avec de la gestion de version. Le deuxième concept important, c'est que tout est en plein écran. D'accord, ça c'était dès 2005, dès la conception d'OLPC, donc bien avant qu'on ait l'habitude d'avoir toutes les activités en plein écran avec nos smartphones. Et OLPC, à chaque fois encore, il faut se souvenir, c'était avant la vague de netbook qui a surgi après. Là, je voulais, une fois qu'on a dit ça, je voulais mentionner quelques faits au sujet de cet intérêt pour l'éducation qui est source d'innovation. D'accord ? Aujourd'hui, on a l'informatique entre les mains. Des fois, on ne sait pas d'où viennent les inventions, mais l'idée d'OLPC d'avoir pour les enfants un ordinateur de manière aussi naturelle qu'on a aujourd'hui un stylo et un cahier, ça date de 68 avec Alan Kay qui imagine le Dynabook. D'accord, donc il le conçoit, il en fait un prototype, et le Dynabook, comme vous voyez, c'est un écran plat, un clavier, c'est une sorte de iPad amélioré puisque en plus le logiciel est libre dedans et qu'on a tout ce qu'on veut. Smalltalk, je l'ai mentionné tout à l'heure, donc a commencé à être écrit au début des années 80, ça démarre en 71, et la première version que Alan Kay estime utilisable, c'est en 1976. C'est là la naissance du langage orienté objet, d'accord, avec cette idée que normalement cette façon d'écrire du code étant plus naturelle sera plus accessible à des enfants et qu'on va pouvoir construire des interfaces leur permettant de manipuler des objets plus naturellement. Aujourd'hui, maintenant, les objets en informatique n'ont plus grand-chose à voir avec des objets du monde naturel, c'est plutôt des concepts, mais en tout cas, c'est vraiment cette volonté de faire de l'ordinateur une interface d'apprentissage qui a initié cette réflexion-là, et j'ai pas résisté à vous mettre cette interface de Smalltalk, très ancienne, mais que vraiment je trouve très belle, on n'a pas de distraction, c'est très très joli, mais comme vous savez, j'utilise IMAX, je n'ai pas tellement de goût en termes d'interface graphique. Au sujet de, comme je vous disais, donc Turtle Art, ça fait partie des activités développées par OLPC et par Sugar Labs maintenant, et c'est la tortue dont on a parlé. Et là, on est en plein écran. En haut, vous avez le bandeau. Si vous passez avec la souris dans un coin de l'écran, vous avez le journal, vous avez le cadre qui s'affiche à partir duquel vous pouvez accéder à différentes vues. Voilà, ça vous donne un aperçu très rapide de ce à quoi ressemble Sugar. Là, je suis revenu en arrière ou en avant ? Non, tout va bien. Et donc, parler d'éducation informatique, donc je vais faire très général pour provoquer des questions après. Et c'est un point de vue vraiment très personnel, donc souvent polémique, mais je préfère être polémique et avoir des gens qui me contredisent que l'inverse. Il y a ce mythe depuis 5 ans, depuis 5-6 ans, des digital natives. Donc si vous allez dans les milieux où on parle d'éducation et de numérique, dans les sphères gouvernementales ou chez les chercheurs, etc., il y a une grande excitation sur cette théorie de Mark Prensky disant bah, « les enfants, ils savent se servir tout de suite du numérique, c'est très facile pour eux, etc. » Alors oui, ils savent se servir du numérique, mais c'est parce que nous, personne ne sait ce qu'est le numérique. D'accord ? Donc pour moi, dès qu'on dit numérique, c'est qu'on commence à être dans le flou. À l'époque où on a eu les premières télévisions et qu'on s'est posé la question de comment il fallait éduquer les élèves à l'utilisation de la télévision, on ne s'est pas dit ça va être l'éducation cathodique, on s'est dit ça va être l'éducation aux médias, on parlait de quelque chose de plus précis. Aujourd'hui, numérique, ça recouvre tout et n'importe quoi. Et donc, il y a eu ce mythe des digital natives. Je pense, moi, que les enfants ont la même chose que nous, c'est-à-dire des affordances et des réactions spontanées à des interfaces, mais que ça leur donne pas plus de compétences numériques que des adultes. Le deuxième mythe, c'est ce que Roberto Casati appelle le professeur électrique ou le professeur électrifié. Et c'est la démarche qui consiste à essayer d'utiliser l'informatique pour faire avec l'informatique ce que fait un professeur. D'accord ? Donc c'est le mythe de on va pouvoir ne rien changer à la relation pédagogique et mettre des ordinateurs à la place. Le troisième mythe, c'est celui de l'autonomie spontanée et de la capacité que les gens auraient face à un ordinateur à apprendre seul. Ce mythe-là, il est plus, comment dire, il est plus subtil à débusquer. D'abord parce qu'on a tous cette expérience intime d'apprendre seul face à l'ordinateur. On est plus ou moins autodidacte dans plein de domaines depuis Internet et on plonge là-dedans. Sauf que ça nous fait un peu occulter tout ce qui nous permet de plonger là-dedans et d'avoir des repères, etc. Et c'est pour ça que ce mythe-là, il est aussi très proche de certains aspects des théories constructionnistes, d'accord, qui disent mettez l'enfant dans une interaction avec un objet qui lui permettra de construire ses connaissances par lui-même. C'est un peu, en résumé, la vulgate constructionniste. Et donc, pour résumer le constructionnisme, des fois, on dit apprendre à apprendre ou apprendre seul en interaction avec la machine. Pour moi, je pense que c'est un mythe, dans le sens où on n'a pas de données scientifiques qui pourraient fonder un tel constat et appuyer un tel fait, et qu'on apprend toujours via l'autorité de quelqu'un qui nous transmet quelque chose, ce qui fait de moi un ringard absolu, mais j'attends encore la controverse, et ce qui ne m'empêche absolument pas de participer avec enthousiasme au projet OLPC, d'accord, il n'y a aucune contradiction, c'est qu'on a un projet varié avec différents points de vue, et je pense que plein de méthodes de pédagogie alternative sont très utiles pour l'exploration, pour l'éveil de la curiosité, pour le plaisir, mais qu'on ne peut pas en faire une théorie holistique qui va remplacer tout. J'avais prévu, quand je pensais avoir plus de temps, une partie sur l'informatique et le libre, mais je fais comme si vous saviez déjà tout, d'accord ? Donc, en gros, Richard Stallman, l'imprimante, la Free Software Foundation, et puis tous les gens qui contribuent depuis. Il y a quand même une année centrale qui se dégage, 1984. C'est l'année du démarrage pour le plan informatique pour tous. Donc, c'est dans ces années-là qu'on commence à vouloir mettre l'éducation, l'informatique au cœur de l'éducation en France. C'est l'année où ATT commence à se dire tiens, Unix, on va en faire quelque chose au niveau commercial, donc où la problématique du logiciel libre devient de plus en plus importante. Pour moi, c'est une année assez charnière, vous trouverez souvent des choses autour de cette année-là. Pour ce qui est de l'éducation et du libre, maintenant je vais commencer un peu d'hypnose et vous imprégner avec des images de projets libres qui existent. Si vous ne les connaissez pas, ce sera l'occasion d'en rediscuter après. Si vous les connaissez déjà, d'en parler à d'autres. Alors, première image, vous connaissez Michael Hart, fondateur du projet Gutenberg. On n'y pense pas spontanément comme un projet où le libre et l'éducation se rencontrent, mais c'est quand même une base de données énorme de livres du domaine public. Et pour la petite anecdote, j'étais allé à l'UNESCO il y a 8 ans, je crois, à une conférence de Michael Hart, et il avait expliqué son projet, donc à l'américaine, un peu comme, là vous ne le devinez pas, mais si vous cherchez d'autres photos, il est souvent en chemise à fleurs, et d'un coup, cet américain costaud qui avait lancé un projet énorme et qui avait ramené derrière lui plein de gens, s'était mis à pleurer à la tribune de l'UNESCO. Et tout le monde a été saisi parce que c'était vraiment juste un débordement émotionnel de quelqu'un qui se réalise en le disant que sa passion court depuis plus de 30 ans, depuis 35 ans. Moi, ça m'a marqué. C'est parce que quand on voit quelqu'un investi comme ça, forcément, on se dit allons-y, quoi. On n'hésite plus. Et puis, et pour moi, ça fait vraiment partie de ce qui fait le plaisir de contribuer au libre. Un autre plaisir passionné et passionnant, tant de passionnés, c'est Wikipédia. C'est une ressource énorme pour ce qui est de l'éducation. L'association en ce moment Wikimedia France a une personne en charge des projets éducatifs, donc ils font des interventions dans les écoles, auprès des enseignants, dans les universités, pour sensibiliser, pour expliquer comment ça fonctionne et essayer de trouver des usages nouveaux dans les écoles. Il y a encore une forte résistance des enseignants en général autour de Wikipédia. Mais je m'emploie à essayer de lever ces résistances avec des arguments de philosophe que je pourrais développer après. Un projet alternatif qu'on connaît moins bien, mais qui est aussi très actif, c'est Wikidia. Donc c'est une encyclopédie pour les 8-13 ans. D'accord? Là, vous avez la version française, mais il y a plusieurs Wikidia qui sont nées, une dans les Pays-Bas, et il y en a une en Espagne qui démarre tout doucement, mais la Wikidia française qui a été lancée et qui continue d'être gérée par Mathias Damour, réunit aujourd'hui, je crois, une dizaine de milliers de pages, et ce sont à la fois des enfants et des adultes qui contribuent ensemble, le but étant de faire quelque chose de lisible par des enfants de 8-13 ans. Toutes les écoles qui s'y sont mises sont épatées du résultat en termes de responsabilisation d'un enfant, par exemple, de 14 ans au collège, qui va d'un coup être autorisé à essayer de dire ce qu'il sait sur un sujet pour un nouvel élève en sixième ou autre. Donc, si vous êtes wikipédien déjà d'occasion et que vous vous intéressez à l'éducation, c'est un projet à regarder. Un projet héroïque que tout le monde connaît et qui est mené encore aujourd'hui par la personne qui l'a lancé, c'est J'ai compris. Nous, l'une de nos contributions à OLPC France, ça a été de rendre la suite J'ai compris, de faire se rencontrer la suite J'ai compris, qui contient une centaine de logiciels, avec toute la suite des logiciels éducatifs libres du projet OLPC. Et les logiciels de J'ai compris, qui sont des activités de tout genre, mais vraiment orientées à l'éducation, sont les plus utilisés dans le monde aujourd'hui. On a 2 millions d'ordinateurs XO, c'est le nom des ordinateurs OLPC à peu près dans le monde, et sur ces 2 millions, la suite J'ai compris est vraiment très largement utilisée. À côté de ça, il y a des projets un peu liés à des distributions, donc vous avez la distribution Edubuntu, d'accord? Moi, je ne connais pas bien ces projets-là, peut-être que d'autres les connaissent mieux, mais en général, j'avais l'impression que c'était un peu une impasse, parce que personnellement, j'irais pas installer du Ubuntu sur ma machine. Alors maintenant, on peut, avec une machine virtuelle, tester de plus en plus facilement tout ce qu'on veut, mais à l'époque, je n'allais pas pour moi installer du Ubuntu, du coup, je n'allais pas facilement contribuer. Après, je dis ça, je ne connais pas. Et je sais que c'est utilisé dans des écoles et que les professeurs en sont très contents. Ça reste une distribution généraliste. Il y a un projet qui s'appelle Sankore, où au départ l'idée c'était un petit peu dans le sillon d'OLPC, mais avec une philosophie différente. Il y avait un projet de fournir du matériel de projection vidéo avec des pointeurs, donc de faire une sorte de tableau numérique à peu de frais, pas cher, pour des écoles en Afrique. Et la suite de ce projet, c'est en fait un portail de ressources pour des tableaux numériques, et toutes les ressources de ce portail sont libres. Donc ça, c'est plutôt un projet qui est branché très francophonie, mais dès qu'on parle d'éducation et de libre, on se place d'emblée dans la francophonie et non pas tellement sur le sol français. OLPC France, je vous en ai déjà un peu parlé, on existe depuis 2008 maintenant, et puis l'une de nos activités, c'est de faire ce qu'on appelle des Sugar Camps, où on réunit des développeurs de la communauté Sugar du monde entier, et on va en organiser un au printemps prochain. Je ne veux pas encore trop m'avancer, mais ça devrait se faire au printemps prochain, où le but sera non seulement d'avoir des enfants qui utilisent Sugar, hein, sur les OLPC, mais qui les utilisent sur d'autres ordinateurs, parce qu'on peut l'installer n'importe où, et qui édite Wikidia, et qui joue avec J'ai compris, et qui rencontre d'autres enfants qui font de l'Arduino dans une autre association, etc. Donc ce sera vraiment mettre l'axe plus sur l'éducation et l'informatique en général que simplement un ordinateur et une interface. On fait aussi du travail sur les contenus, et c'est assez essentiel. Là, on a traduit un manuel péruvien. Donc les grands déploiements d'OLPC aujourd'hui, c'est l'Uruguay. D'accord, où ils sont à saturation, tous les élèves ont un ordinateur ou la XO tablette, la dernière née des outils d'OLPC, le Pérou et le Rwanda. D'accord, donc ça fait trois grands déploiements, et l'Uruguay est un peu en tête en termes d'expérience et de gestion de ces déploiements. Et au Pérou, une enseignante a commencé à écrire des cours montrant très clairement comment on utilisait l'ordinateur dans la classe. On ne possédait pas ces choses-là, ça n'existait pas dans l'univers OLPC, et je mets au défi quiconque d'en trouver pour un prof de CM1, CM2 qui voudrait faire des cours d'histoire avec un ordinateur. Il y a des tas de ressources dispersées, des bouts de logiciels, des choses comme ça, mais tout est vraiment en ordre assez chaotique. Là, il y a une enseignante. Le fait que ce soit une enseignante, ça a donné une forme d'unité. Et on a traduit ça. Et on est en train de faire en sorte que cette ressource, on espère qu'elle pourra bientôt... elle est déjà utilisée à Madagascar, par exemple. Là, on a notre déploiement. Et on essaie de faire en sorte que cette ressource vive et prolifère pour être utilisée quand les enfants auront plus d'ordinateurs avec des logiciels libres au primaire. La citation de Walter Bender, donc, qui a lancé Sugar Labs et qui continue de le diriger, qui me paraît assez claire, mais c'est exactement ça l'enjeu. Donc le libre est aussi essentiel à l'éducation que l'éducation est essentielle à la liberté. C'est très général, c'est une formule, mais pour moi, ça veut bien dire quand même l'imbrication qu'il y a dans les deux. Et quand on garde en tête cette phrase, dès qu'on s'intéresse au domaine, ça nous donne une direction dans laquelle travailler. Rapidement, parce que... Ah oui, je suis en stéréo. Rapidement, parce que il y a au niveau du temps, je ne suis pas de... Tout va bien, c'est bon. Quand on n'est pas familier de l'éducation, il y a des débats qui nous échappent. En grenouillant depuis 10 ans dans tous ces débats-là, je peux vous les résumer rapidement, vous faire gagner du temps. Il y a un grand débat dans les sciences de l'éducation, sur les théoriciens, les intellectuels qui se positionnent, par rapport soit on a les pédagogistes contre les disciplinaires. Donc ma description sera forcément caricaturale, mais par exemple, on commencera pour les pédagogistes à s'intéresser à l'enfant, et pour les disciplinaires, à s'intéresser plutôt à l'élève. C'est aussi le débat entre ceux qui se nomment eux-mêmes républicains, se plaçant dans la tradition de Jules Ferry, d'un enseignement frontal, de la transmission des connaissances, etc. Donc, on a une position plus traditionnaliste. Et les pédagogistes, donc c'est encore une fois un terme très flou et ça ne rend pas justice à la diversité des positions. Mais vous avez par exemple une figure comme Philippe Mérieux, qui est emblématique. Qui est un peu le porte-drapeau, au moins au niveau des productions intellectuelles et au niveau médiatique. Et ça regroupe à la fois tout ce qui est pédagogie alternative, Montessori, Freinet, et puis même d'autres mouvements qui remontent à beaucoup plus loin, et un ensemble de recherches sur comment changer le mode classique d'enseignement, avec une forte une notion centrale d'autonomie de l'élève. On a à nouveau toujours dans l'éducation et l'informatique éducative un débat entre les libristes et les agnostiques, d'accord ? Donc vous avez le gouvernement, il est influencé tantôt par les libristes qui disent il faut mettre Ubuntu partout, tantôt par les agnostiques qui disent Ubuntu, on s'en fout, on peut mettre du Microsoft, ça fera le même effet, l'essentiel c'est l'outil, d'accord ? Et c'est son efficacité. Un troisième débat, celui de la question de l'enseignement de l'informatique. C'est un débat délicat, mais aujourd'hui, s'il y a une option informatique en terminale, elle est née il y a 2 ans, c'est grâce à l'effort de personnes qui pensent qu'il faut enseigner l'informatique comme telle, et pas seulement au niveau du primaire, du collège ou de la terminale, mais renforcer les enseignements dans les cursus supérieurs. Donc, dans ce groupe-là, il y a Gilles Devecq, Gérard Berry, donc au Collège de France, chaire d'informatique au Collège de France. Donc, c'est des personnes qui sont confrontées directement un peu au cursus supérieur. Gilles Devecq, enseignant à Polytechnique, et qui sont un peu en désarroi devant le niveau en informatique des élèves dans ces écoles-là. Et le but du groupe qui s'appelle EPI-ITIC, c'est de mettre en place un CAPES et une agrégation d'informatique pour, par propagation, que l'enseignement se diffuse. Je dis bien que c'est 3 débats différents parce que vous pouvez trouver des gens qui ont des profils mixtes un peu dans tout. Si je dois décrire mon profil, moi je suis une sorte de traditionnaliste disciplinaire, donc le mot est pas très bien choisi parce qu'il est un peu sévère, mais ça veut dire que je suis très ouvert à tout ce qui est pédagogie alternative, mais ouvert sans avoir les yeux fermés et par défaut conservateur sur ce plan-là. Je suis libriste, c'est-à-dire je pense que c'est hyper important que les technologies soient libres à plein de points de vue, et j'essaierai de résumer ces points de vue à la fin. Et je suis pour un enseignement de l'informatique dès l'école primaire. D'accord ? Pas un enseignement de l'informatique qui consiste à apprendre à se servir d'une souris, parce qu'ils en auront plus besoin quand ils utiliseront Emacs, mais un enseignement de l'informatique qui serve à comprendre des éléments d'algorithmique, des trucs tout bêtes. Donc c'est l'informatique objet contre l'informatique outil. Et là, on a vraiment deux grands groupes de pression très forts. Ce qui est assez bizarre, c'est que en France, nos représentants de chez Microsoft sont tout le temps dans l'informatique outil, d'accord, en disant il faut de l'informatique outil, un ordinateur ça doit être comme une voiture, on n'a pas besoin de savoir démonter le moteur de sa voiture pour conduire, etc. Donc, le prochain qui met la métaphore de la voiture, on n'en peut plus de cette métaphore. Donc voilà, qui disent qu'il faut que ce soit l'outil, et de l'autre côté, les gens qui disent non, l'environnement devient tellement numérique que c'est essentiel pour exercer son autonomie, son intelligence et sa compréhension du monde de savoir un peu ce que c'est que, par exemple, une donnée. Qu'est-ce que c'est que, comment est stockée une donnée dans un ordinateur? Tant qu'on n'a pas des éléments comme ça, nos intuitions sont complètement fausses et on est en proie, on n'est plus autonome comme citoyen. Faites l'essai autour de vous et posez une question un peu bancale et mal posée, mais depuis que je fais cet essai, moi je suis effaré. Qu'est-ce qui est le plus grand entre Internet et le web? D'accord? Donc la question est mal posée, vous savez répondre, mais demandez autour de vous. Et tout le monde vous dira, ah, ben, le web, Internet, c'est... Non, non, le web est beaucoup plus grand. Donc quand on est à ce niveau-là d'ignorance, on réfléchit, on se dit, ok, oui, peut-être que quelques notions de base sont importantes. Les dispositifs aujourd'hui pour l'éducation à l'informatique, c'est le B2I, le brevet informatique Internet, et le C2I pour la formation des enseignants. C'est des dispositifs qui essayent de donner quelques compétences aux élèves, mais qui sont vraiment branchés outils. D'accord ? C'est savoir comment mettre un fichier dans la corbeille. Donc, moi, j'ai cherché ma corbeille dans Emacs, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, ces trois débats sont différents. On a des libristes hyper pédagogistes, d'accord ? Donc des gens qui sont par exemple dans la droite ligne du projet OLPC, qui pensent qu'il faut encourager au maximum l'autonomie de l'enfant face à sa machine, mettre au maximum des logiciels libres, et par contre qui diront mais on n'a pas tellement besoin d'enseigner l'informatique en tant que telle, ils apprendront tout seuls au contact des outils, pourvu que ce soit des outils libres, ils apprendront tout seuls. Je ne crois pas trop à ça. On a des agnostiques pédagogistes qui sont contre l'enseignement de l'objet informatique, donc là c'est grosso modo toutes les technologies propriétaires et la pression auprès du gouvernement qui disent faites des référentiels de compétences, il faut que les gens sachent se servir d'un iPad, il faut que les enfants sachent se servir d'un iPad, l'outil c'est pas le business model qui nous dit si l'outil est pédagogique ou pas, la neutralité de la technologie, etc., etc. Donc on a cette ligne là et je vous laisse faire la suite des autres variations. Pour moi, l'objectif, si l'objectif est que le libre ait encore plus de place dans l'éducation et que l'informatique et l'éducation fassent du travail utile ensemble, il y a trois obstacles à surmonter. Le premier, c'est un obstacle médiatique. D'accord ? Vous vous souvenez d'Internet il y a 15 ans, ou mal, mais en tout cas, on peut aller sur Internet pour s'en souvenir. Aujourd'hui, moi, quand j'ouvre Internet, je suis bombardé de bullshit. C'est devenu une machine à médias qui nous envahit, qui nous distrait. C'est devenu un peu comme une deuxième télévision et d'autres pourront vous en parler mieux que moi après. Mais vraiment autour de l'éducation, spécifiquement sur l'éducation, il y a toute une pop culture, d'accord ? Donc des héros. Vous avez par exemple la Khan Academy. Maintenant, voilà. Ça, c'est un héros hyper pop qui fait des conférences TED fascinantes et on a ce phénomène un peu d'hypnose. Ok ? On a le même phénomène autour des MOOC, j'en reparlerai tout à l'heure. Il y a un obstacle administratif. En France, le premier obstacle administratif, c'est que le matériel est géré par les collectivités, alors que la pédagogie est gérée par les écoles. D'accord ? Quand vous avez une école primaire, c'est la mairie qui achète les ordinateurs, mais c'est les enseignants qui doivent enseigner avec. Ce découplage, on est en train un peu d'y remédier depuis juin, mais ce découplage a posé énormément de problèmes depuis 20 ans en termes de qui va gérer la maintenance. C'est un peu la même habitude du millefeuille administratif dont on souffre en France. Et le dernier obstacle, c'est un obstacle qui est lié à l'outil qu'on a entre les mains, qui est un outil de distraction. D'accord ? C'est-à-dire que dès qu'on a un ordinateur, au bout de 10 minutes, on fait autre chose. On a tous ce phénomène-là. Et c'est vraiment ce qu'on doit répondre aux gens qui nous disent qu'on apprend tout seul. Donc, c'est sûr qu'on peut apprendre tout seul, c'est sûr qu'on peut être autodidacte. Moi, je suis autodidacte en informatique. Personne ne m'a demandé d'apprendre à programmer en Lisp. Si j'avais su, même, je pense que. Mais tout en étant autodidacte, ça suppose qu'on ait beaucoup de temps, d'accord? C'est pas à la portée d'un enfant qui a un programme et des choses à apprendre, ou alors il faut que ce soit guidé et il faut que ce soit dans un cadre d'enseignement bien défini. Et quand je dis l'obstacle technologique, ça va plus profond, c'est-à-dire que le projet OLPC répète à l'envi depuis 2005, c'est un projet éducatif, ce n'est pas un projet technologique. Or, tout ce qu'on voit dans les médias, c'est les capacités techniques de la machine, et c'est normal. Tout à l'heure, je vous le disais, OLPC France, c'est né avec quelqu'un de l'ENSK Champ qui a essayé de faire un adaptateur VGA USB pour pouvoir projeter depuis le XO. Bon, bah, d'accord, c'est un outil technologique intéressant en lui-même, mais dès qu'on parle d'éducation et d'informatique, on finit par retomber dans la technologie au niveau de ce qui nous intéresse, et même un enseignant, quand on a des cours avec des ordinateurs, on finit par retomber dans la technologie, soit parce que c'est pas fluide, soit parce que ça se met entre nous et l'élève, soit parce que ça génère trop de distractions et que c'est compliqué à gérer. Donc je pense qu'on est à la veille de comprendre comment ça marche et de comprendre comment devenir à peu près raisonnable avec tout ça. Et quand vous regardez ce qui se passe autour des MOOC, donc les MOOC c'est les Massive Online Open Courses, ben vous avez un petit mélange des trois. Donc d'un coup c'est très médiatique parce qu'il y a des boîtes qui commencent à faire de l'argent avec. Le open, on ne sait pas trop ce que ça veut dire tout le temps, parce qu'il y a des cours qui sont libres au sens de libre, vraiment libre, et d'autres qui ne le sont pas vraiment. L'administration commence à s'y intéresser parce que ça a l'air d'être le Graal pour sauver l'éducation, alors qu'on sauve juste la question de l'accès quand l'interface est un peu rudimentaire, éventuellement celui des interactions personnalisées quand l'interface est mieux faite. Mais et vous avez aussi l'obstacle technologique qui fait que on a toutes ces questions sur comment mettre en place des MOOC qui fonctionnent, et on risque de retomber dans un débat technique au lieu de vraiment s'intéresser à la pédagogie. Ce qui est simple, c'est qu'on a un seul remède, c'est le libre. Comme ça, je vous simplifie la tâche, mais je donnerai des devoirs à la maison après quand même. Parce que pourquoi ? Parce que quand on est dans le libre, ça demande un effort. Il y a quand même cette notion de résistance qui est bonne pour rester conservateur et traditionnaliste, comme je vous l'engage à l'être. Au niveau de l'administration, là, j'ai mis ce que je peux dire sur une slide, c'est-à-dire que ça fait des économies d'échelle, les arguments classiques qu'on a sur le libre et l'administration. En fait, ce que je veux dire réellement, c'est que tous les projets, par exemple Wikidia, c'est des projets qui peuvent se faire en marge des décisions de l'administration. Les profs qui sont impliqués là-dedans le font à l'intérieur de leur cours. Il y a la liberté pédagogique à laquelle les profs tiennent beaucoup, qui leur permet de faire ça. Ils n'ont pas à demander d'autorisation. Il y a des associations qui permettent aux enseignants de s'intéresser à tout ça en plus. Et voilà, ça permet, le libre permet souvent de contourner les obstacles administratifs qui peuvent nous empoisonner la vie. Le libre est pédagogiquement agnostique. Alors, quand je dis pédagogiquement agnostique, c'est pour faire référence à ce que je disais ici, pédagogiste versus disciplinaire. Vous avez des gens aujourd'hui dans le libre qui disent vraiment il faut aller vers le constructionnisme, il faut des référentiels de compétences, il faut, etc. Et d'autres gens qui disent le référentiel de compétences, c'est vraiment c'est de la propagande, c'est de la propagande. De néolibéraux qui veulent juste qu'on soit des travailleurs au lieu d'être des penseurs et des citoyens. Et il y a aussi cet argument qui est intéressant que Walter Bender donne dans une interview qu'on a faite de lui au Sugar Camp, où il dit, regardez les voitures. Il y a 30 ans, les voitures, on avait des structures rigides, d'accord ? Parce qu'on se disait, structures rigides, on va être mieux protégés. Et en fait, il se passe quoi ? C'est que quand une voiture a une structure rigide et qu'elle a un accident, c'est le conducteur qui encaisse tout le choc. Résultat, on s'est mis à faire des voitures avec des structures souples pour que ce soit la structure qui encaisse le choc et pas le conducteur. Et Walter Bender dit que c'est la même chose avec le libre dans l'éducation. D'accord ? Ça prédispose à une attitude face à un outil qui, même s'il bug, il n'est pas en train de nous mordre. D'accord ? Les bugs font partie du fonctionnement normal des outils. Dites pas qu'un imaxien vous a dit ça, mais le principe c'est ça. On n'a plus peur des bugs. Les bugs sont dans la nature des objets technologiques qui de temps en temps marchent, et les bugs sont des choses humaines. C'est-à-dire que ça arrive à des gens, c'est fait par des gens, et ça se résout avec d'autres êtres humains autour. Donc on est dans une attitude complètement différente. On n'est pas bloqué, inhibé par rapport à la machine. Je suis sûr que dans la salle, il y a les deux tiers, vous avez dû installer un antivirus chez votre tante, d'accord ? Et vous avez tous vu que son problème, il n'était pas technique, il était juste psychologique. C'est juste, elle a peur. Et comme elle a peur, elle n'appuie pas, elle ne lit pas l'écran, d'accord ? Elle ne lit pas la fenêtre qui lui est indiquée. Et si elle ne lit pas, bah, elle peut pas savoir ce qu'il faut faire après. Donc, c'est cet argument qu'on appelle de crumple zone. C'est que le libre dans l'éducation, il y a une connaturalité entre les objectifs de l'éducation qui sont d'éveiller à la curiosité et l'envie de mettre la main à la pâte, et le libre qui crée cette zone où on n'est pas complètement assommé par un bug, mais où ça nous donne la main. Et dernier argument, ce que je disais, c'est que voilà, si on est dans le libre, il y a un effort, une résistance, et que l'espèce de ringardisme qu'il y a à être libriste, alors même si maintenant tous les geeks sont des pop stars et que c'est devenu vachement à la mode, c'est plus lent à tomber dans une forme de paillettes numériques comme on a sur le web. Aaron Swartz, que vous connaissez, trois conseils dans un texte qu'il a écrit en 2007 et qui, à mon avis, résume ce que vous devez faire en rentrant à la maison et qui sont ce qu'on fait dans le libre en général, mais qu'il est d'autant plus important de faire dans l'éducation, pour Wikidia, pour OLPC France, pour les ressources, etc. Be curious, soyez curieux. Donc ça, c'est fait pour contrecarrer un peu le stay foolish et stay hungry de Steve Jobs que tout le monde a en tête. Là, il y a trois avis, donc il y en a plus. Le be curious, c'est ce qu'il appelle je pense que c'est ce qu'on a, les gens qui appellent l'intelligence, ça revient à ça. Dites oui à tout. Donc, à se passer un certain âge, on apprend à ne plus faire, mais c'est dommage, la jeunesse, c'est quand même le zeste dont on a besoin. Et le dernier qui est le plus important, il me reste 10 minutes pour parler ou pour les questions ? Non, c'est fini ? Pour parler, mais j'ai fini, alors. Donc, il y a encore plus de questions et je pourrais même céder la place avant au prochain orateur. Je suis un peu le pré-show avant les stars. Le troisième, c'est le plus important. Ne supposez jamais que les autres savent ce qu'ils font. D'accord ? Donc, quand vous mettez les pieds dans un projet lié à l'éducation ou au libre, vous serez submergé de gens qui ont des théories, y compris moi. Oubliez tout ça et souvenez-vous qu'il n'y a que votre chemin qui compte dans l'affaire et que c'est via ce chemin-là que vous contribuerez au libre, à l'éducation. Merci.
On va prendre les questions, si vous en avez. Plus rapide que moi. Bonjour. Dans votre exposé très intéressant, vous parlez d'informatique, notamment dans les programmes de l'éducation nationale, etc. En fait, il n'y a pas tellement le mot informatique dans les programmes. Il y était en 1984 lors du plan informatique pour tous. Aujourd'hui, on parle du numérique, qui est au cœur de tous les programmes. C'est très, très important. Est-ce que vous ne pensez pas que quand même ce changement de terme, il incite les enseignants à utiliser l'informatique en tant qu'outil et non plus en tant qu'objet ? Et comment vous pouvez agir, vous ou nous, là-dessus ?
Alors, merci parce que ça m'aide à préciser un point. Oui, c'est exactement le problème. Aujourd'hui, il y a un site et un groupe de gens qui se met ensemble pour faire de l'éducation au numérique la grande cause 2014. Donc vous verrez ça. Vous verrez dans la liste des gens qui sont derrière ce groupe-là un panel très hétéroclite de gens. Donc si vous reprenez mes trois débats, vous pouvez trouver à peu près tout. Et je crois, moi, foncièrement, que évidemment c'est pratique de dire numérique, on va pas tous se mettre à changer de langage, mais même sans changer, je suis contre le terrorisme, y compris de Stallman quand il nous demande de dire privateur au lieu de propriétaire, d'accord, j'assume complètement ça, je trouve ça débile de changer de mot, c'est du Orwell inversé, ok. Donc à un moment donné, numérique, même si on peut prononcer le mot parce que c'est plus pratique, faut quand même revenir à ce que ça veut dire, et pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut juste dire qu'il y a un changement au niveau des infrastructures, au niveau des contenus qui circulent. On sent que c'est un changement systématique, qu'il y a un changement de paradigme, mais ça, à la rigueur, ça veut dire seulement ça. Ça veut dire que le changement, il se fait à une échelle qui est au-delà de quelque chose qu'on peut isoler. Après ça, oui, le mieux, c'est de dire informatique quand on veut parler de l'informatique objet, et de trouver une autre façon de parler du média informatique quand il s'agit des outils. Quand il s'agit des outils, ça se rapporte plus à l'ergonomie. Savoir mettre un fichier dans une corbeille, c'est une question d'ergonomie plus que d'informatique. Savoir faire une fonction récursive, c'est une question d'informatique. C'est pas une question d'ergonomie ou alors d'ergonomie du langage. Mais... Donc oui, mes recommandations, c'est d'éviter le terme numérique, de dire informatique, et le nom de l'option en terminale, c'est informatique et sciences du numérique, d'accord. Donc je pense que ça a été fait pour partir de l'informatique comme objet, parce que c'est vraiment l'enjeu du groupe EPI, c'est enseignement pour l'informatique, de replacer ça au cœur de l'enseignement jusqu'au primaire, et sciences du numérique parce que effectivement, comme l'informatique va toucher différents domaines, il s'agit de montrer les connexions qu'il y a entre cette informatique objet et les répercussions que ça a dans d'autres sciences, par exemple en biologie. D'accord. Donc si on a une passerelle à faire entre l'informatique et la biologie, bah oui, le mot numérique devient pratique, mais en général il faut l'éviter. Dans cette grande cause, le groupe EPI, enfin l'association EPI, ça a 40 ans, hein, donc ça date d'avant encore le plan informatique pour tous, quand c'était juste en gestation. Donc il participe à cette idée de grande cause de l'éducation numérique en 2014 pour faire entendre leur voix, donc ça fait partie des stratégies normales pour faire pression, mais il y a vraiment un panel complètement différent. Et il y a un besoin de formation des enseignants. Pour l'instant, l'option informatique en terminale, c'est fait sur des enseignants qui sont volontaires pour recevoir une formation. Donc c'est très fragile et on a épuisé le quota d'enseignants volontaires. Ils n'ont pas tellement de retour en termes de valorisation de leur travail. Alors c'est un investissement. C'est pas... Et donc d'où l'idée de faire une section séparée, un CAPES agrégé séparé. Et c'est même moins cher en fait. Les calculs sont faits, c'est moins cher de faire ça, de faire un vrai CAPES, que de faire des formations dans tous les sens en termes d'heures et de...
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là-haut.
Bonjour, moi j'avais une petite question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, mais sur l'état des lieux actuel au niveau de l'éducation nationale, où est-ce qu'on en est? Enfin, la plupart des établissements tournent sous Windows. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est dû au fait que les chefs d'établissement soient tous agnostiques, ou est-ce qu'il y a des accords entre l'éducation nationale et Microsoft? Et si on demande d'avoir un parc informatique sous Linux au service informatique de l'établissement, quelle marge de manœuvre est-ce qu'ils ont?
Alors, je pense que ça tient à une forme d'agnosticisme et de windowsisme généralisé. D'accord, 99% des gens connaissent ça. Agnosticisme dans le sens où on se dit la techno à l'intérieur, on s'en fiche, on a besoin que ça marche. Ça, effectivement, il y a cette idéologie là qui est répandue. Ça tient aussi à un lobbying de Microsoft, d'accord, qui c'est pas caché, hein, c'est juste que on peut le trouver partout sur internet. Les personnes en charge de l'éducation chez Microsoft lancent des projets avec les enseignants. Donc il y a par exemple le forum des projets innovants. Et c'est toujours difficile. On peut pas critiquer ça frontalement parce que les enseignants qui participent à ces forums-là sont vraiment des personnes volontaires qui, pour le coup, sont souvent aussi agnostiques et qui disent c'est pas le libre qui va changer quoi que ce soit à ce qu'on fait. Nous, on n'a pas le temps, on prend ce qu'il y a de plus pratique et de plus innovant. Il y a aussi des accords cadres, d'accord. Donc là, il y a clairement des accords avec Microsoft, mais au niveau du logiciel libre, on a eu un accord cadre avec l'association de la FUL, avec l'éducation nationale. Mais il y a toujours un double jeu, et au final, le double jeu permet à chacun un peu de faire ce qu'il veut. Donc il n'y a pas de bâton. Les bâtons qu'il y a dans les roues, par exemple, il y en a eu un qui était flagrant, c'était à l'époque du projet de classe numérique, où on avait donné des crédits aux communes pour s'équiper. Et les communes devaient absolument s'équiper de classes mobiles et de contenu. Et en fait, il y a des sociétés qui font du logiciel libre et du matériel libre, et ils ont eu des problèmes pour répondre à l'appel d'offres parce que les logiciels qui venaient n'étaient pas payants. Du coup, ils ne pouvaient pas participer à l'appel d'offres. Donc ça, c'est un gros bâton dans les roues. D'accord ? Mais c'est un bâton administratif, c'est pour ça que je dis... Voilà, donc il y a des choses comme ça, il y a du lobbying actif, mais il y en a dans tout. Pour le lobbying, il y en a aujourd'hui un peu dans tous les sens. Pour moi, je crois pas. Moi, je crois vraiment plus à la mobilisation informelle dans des associations. Je crois que les enseignants, même agnostiques entre guillemets, s'il y a une association qui vient leur proposer entre 15 et 18 heures une activité d'initiation à l'informatique qui est intéressante, dynamique, avec du libre, je pense que la plupart des enseignants accepteraient ça les bras ouverts, et je ne pense pas qu'un directeur dirait non pour des raisons idéologiques. Je peux me tromper, mais c'est, je ne pense pas. Je ne sais pas si ça répond bien.
Il y a des éléments de réponse, mais moi, c'était plus par rapport à mon expérience personnelle, quand j'ai vu arriver certains énoncés de TP du bac qui étaient en format doc, qui demandaient d'utiliser des fichiers Excel, d'utiliser Excel comme tableur par défaut. C'est vrai que ça m'a fait un peu grincer des dents.
Oui, mais ça, pour moi,
de ne pas avoir le choix, finalement.
Je comprends très bien, mais pour moi, ça fait partie du windowsisme ambiant. Et c'est, ouais.
Bon, merci. Est-ce que il y a encore des questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui s'intéressent ? Oui.
Oui, et puis juste pour revenir un petit peu sur ces problématiques, vis-à-vis de la formation continue, que faire ? Parce que il y a beaucoup de formations qui sont proposées, hein. Très souvent, elles sont orientées vers un certain type de logiciel, souvent propriétaire, hein, dans le domaine de le traitement de texte ou tout ça. Et finalement, on est vraiment orienté vers des formations sur des logiciels et pas vers des formations sur des types de logiciels, avec la généricité qui irait derrière. Et d'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour essayer d'orienter ? Voilà, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont tout intérêt justement à cibler les formations le plus possible, parce que ça fait des prestations supplémentaires, c'est assez intéressant d'un point de vue business, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'inverser cette tendance et faire en sorte d'ouvrir les gens à une classe de logiciels et pas à des trucs vraiment très très spécifiques ?
Premier truc à faire, c'est forcer le... Mais ça, c'est fait en fait depuis au moins 3-4 ans, mais forcer à faire disparaître les mots Excel et Word. Donc, qu'on ait un référentiel de logiciel qui encourage à utiliser les termes génériques. Deuxièmement, moi, je trouve que le B2I est vraiment un dispositif complètement bancal. Et donc, c'est retravailler le B2I de fond en comble pour mettre plus de généricité, d'accord ? Et le faire... aujourd'hui, c'est un ensemble d'une trentaine de compétences avec quatre grandes catégories, mais il n'y a pas de progressivité dans l'acquisition. C'est qu'on a la trentaine de compétences qui est au même niveau. Donc, on n'a pas... commençons à apprendre ces quatre notions fondamentales qui vont nous permettre d'accéder à quatre autres. Il n'y a pas d'hiérarchie ni d'arbre de compétences à acquérir. Donc, mettre de la généricité dans le B2I, enlever les scories qui se réfèrent simplement à un type d'interface plutôt qu'à un autre... et puis surtout construire un arbre de dépendance de façon à ce que mais après le B2I c'est une blague, enfin je l'ai jamais entendu en conférence, donc je sais que ça va être filmé et je peux me permettre de le dire, mais c'est le B2I et le C2I c'est une blague, ça donne bonne conscience. J'ai des amis libristes qui sont engagés dans la définition du C2I et du B2I, donc je ne peux pas me permettre de balayer d'un revers de la main leur travail, parce que de l'intérieur, ils font un boulot génial pour enlever justement les termes qui n'ont pas à être là, creuser. Mais pour moi, le tout est pourri et il faut le mettre à la poubelle et voilà. Mais on n'entend pas trop ça parce que. Mais je repense dans les histoires de... Il y a aussi la mobilisation, entre guillemets, citoyenne. Hein. C'est que le jour à Paris 5, d'accord, Paris 5 faisait beaucoup de choses avec le libre. Il y a des gens qui étaient engagés dans le livre. Et d'un coup, En passant outre la DSI, le directeur signe un contrat avec Microsoft pour donner accès à Live à tous les élèves. Donc ça, c'est aberrant. C'est juste aberrant. Ce directeur-là ne peut pas décemment expliquer sa démarche en disant « Oui, j'ai eu des arguments. Oui, j'en ai parlé avec le conseil d'administration. » C'est aberrant. Ça s'est fait comme ça. Donc ça, oui, il faut le dénoncer. Des étudiants, à l'époque, se sont mobilisés pour le dénoncer. Mais faut veiller là-dessus. Mais encore une fois, moi, c'est peut-être une question d'âge, pas encore, mais j'ai passé trop de temps à critiquer des choses que j'aimais pas et ça me mettait de mauvaise humeur. Maintenant, je fais juste des choses que j'aime. Et je vous engage à faire pareil. C'est ce que j'appelle la voie constructive, aller vers les associations. Les associations, elles retournent vers les écoles à un moment donné. Avec OLPC France, on a un projet, par exemple, qui est assez confidentiel parce qu'on ne fait pas de tapage autour, mais on travaille avec une école de Saint-Denis et avec une poignée d'enseignants qui sont motivés par Sugar Labs, par le logiciel Sugar. Donc, ils ont aussi des XO, mais ils savent qu'ils peuvent les utiliser avec autre chose. Bon, c'est très fragile, d'accord ? C'est comme un bonsaï. La première fois que vous faites des bonsaïs, vous en tuez 12, puis il y en a un qui survit. Donc là, on veut faire survivre notre bonsaï pendant 2-3 ans. Du coup, on a un laboratoire de Paris 8 qui s'est greffé et on a un projet PICRI pour faire des analyses sur l'appropriation de ces outils-là, de cette interface-là par les enseignants. Et en construisant ça dans notre coin tout doucement, on arrive à des choses satisfaisantes. Au passage, ce travail de recherche sur l'ergonomie de l'interface du logiciel qui est installé sur tous les OLPC, il n'est pas fait au MIT. D'accord. Là, j'ai parlé quasiment que de gens du MIT, donc on imagine tout le temps qu'il y a une somme énorme de recherche, mais c'est pas des sommes énormes de recherche, c'est des personnalités influentes comme Papert, comme Alan Kay, comme d'autres gens. Pour ce qui est de la recherche fondamentale, il manque encore beaucoup de choses et il y a plein de choses à apporter. Mais le libre manque, comme tous les projets libres, le libre dans l'éducation manque de bras, de gens qui aident sur Wikidia, de gens qui donnent de l'argent pour héberger les serveurs, etc. Et c'est ça qui est prioritaire, à mon avis, plutôt que de s'énerver contre une administration qui est en partie dans son rôle conservateur en ne faisant que refléter les mauvais usages et le windowsisme ambiant. Il faut aussi lutter contre le lobbying, quoi, c'est évident, mais ça, ça c'est déjà fait en partie, il faut juste le faire astucieusement.
S'il y a juste le temps pour une dernière question rapide, non ? 2 minutes ?
Ah, j'ai oublié.
On me dit que non. Oui, pardon, vas-y.
Excellente question. Le Césamat, j'ai oublié de mentionner ce projet, mais vous le connaissez certainement. C'est la success story du libre. Je ne sais même pas comment j'ai pu oublier la mentionner. C'est depuis 12 ans des enseignants de maths qui se sont mis ensemble. Alors pour le coup, la généricité des outils, ils connaissent parce qu'ils développent tous leurs exercices en LaTeX. Et c'est ce qui fait trembler le monde de l'édition. Ils se sont mis à vendre les versions papier, donc comme des manuels scolaires, et à trouver un modèle à travers ça. Et je mentionne ce projet. Je connais Sébastien Hache qui a longtemps été à la tête de Césamat, et les gens qui ont fait fonctionner l'association n'ont jamais eu ou ont eu un mal fou pour obtenir la moindre décharge horaire, alors qu'ils ont contribué avec des ressources libres à disposition de tous et surtout un modèle qui peut inspirer plein d'autres disciplines. Ils ont contribué à faire avancer les ressources à disposition des élèves, des parents, voilà. Donc dans le libre, on ne peut pas oublier, si vous êtes vous utilisez LaTeX, vous êtes full math, vous pouvez contribuer à Césamat. C'est l'un des projets les plus actifs et surtout qui touche le plus de gens aujourd'hui.
D'accord. Merci beaucoup. Et je vous applaudis.